Douce nuit. Elle eut dans son sommeil un faible gémissement. À la tête de l'autre lit, assis sur le divan, il lisait à la lumière concentrée d'une petite lampe. Il leva les yeux. Elle eut un léger frémissement, secoua la tête comme pour se libérer de quelque chose, ouvrit les paupières et fixa l'homme avec une expression de stupeur, comme si elle le voyait pour la première fois. Et puis elle eut un léger sourire. Qu'y a-t-il, chérie? Rien. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une espèce d'angoisse, d'inquiétude. Tu es un peu fatiguée du voyage. Chaque fois, c'est la même chose. Et puis, tu as un peu de fièvre. Ne t'inquiète pas. Demain, ce sera passé. Elle se tut pendant quelques secondes, en le fixant toujours, les yeux grands ouverts. Pour eux qui venaient de la ville, le silence de la vieille maison de campagne était vraiment exagéré. Un tel bloc hermétique de silence qu'il semblait qu'une attente y fût cachée, comme si les murs, les poutres, les meubles, tout, retenaient leur respiration. Et puis elle dit, paisible, « Carlo, qu'y a-t-il dans le jardin ?»« Dans le jardin ?»« Carlo, je t'en prie, puisque tu es encore debout, est-ce que tu ne voudrais pas jeter un coup d'œil dehors? J'ai comme la sensation que... »« Qu'il y a quelqu'un ? Quelle idée ! Que veux-tu qu'il y ait dans le jardin en ce moment ? Des voleurs ?» Et il rit. Ils ont mieux à faire, les voleurs, que de venir rôder autour de vieilles bicoques comme celle-ci. « Oh, je t'en prie, Carlo, va jeter un coup d'œil. » Il se leva, ouvrit la fenêtre et les volets, regarda dehors, resta stupéfait. Il y avait eu de l'orage l'après-midi, et maintenant, dans une atmosphère d'une incroyable pureté, la lune sur son déclin éclairait de façon extraordinaire le jardin, immobile, désert et silencieux, parce que les grillons et les grenouilles faisait justement partie du silence. C'était un jardin très simple, une pelouse bien plane avec une petite allée aux cailloux blancs qui formait un cercle et rayonnait dans différentes directions. Sur les côtés seulement, il y avait une bordure de fleurs. Mais c'était quand même le jardin de son enfance, un morceau douloureux de sa vie, un symbole de la félicité perdue. Et toujours dans les nuits de lune, il semblait lui parler avec des allusions passionnées et indéchiffrables. Au levant, à contre-jour et sombre par conséquent, se dressait une barrière de charme taillée en arche, au sud une haie basse de buis, au nord l'escalier qui menait au potager, au couchant de la maison. Tout reposait de cette façon inspirée et merveilleuse avec laquelle la nature dort sous la lune et que personne n'est jamais parvenu à expliquer. Cependant, comme toujours, le spectacle de cette beauté expressive qu'on peut contempler bien sûr, mais qu'on ne pourra jamais faire sienne, lui inspirait un découragement profond. « Carlo !» appela Maria de son lit, inquiète, en voyant qu'il restait immobile à regarder. « Qui est là ?» Il referma la fenêtre, laissant les volets ouverts, et il se retourna. « Personne, ma chérie. Il y a une lune formidable. Je n'ai jamais vu une semblable paix. » Il reprit son livre et retourna s'asseoir sur le divan. Il était 11h10. À ce moment précis, à l'extrémité sud-est du jardin, dans l'ombre projetée par les charmes, le couvercle d'une trappe dissimulée dans l'herbe commença à se soulever doucement, par à-coups, se déplaçant de côté et libérant l'ouverture d'une étroite galerie qui se perdait sous terre. D'un bond, un être trapu et noirâtre en déboucha et se mit à courir frénétiquement en zigzag. Suspendu à une tige, un bébé sauterelle reposait, heureux. Son tendre abdomen vert palpitait gracieusement au rythme de sa respiration. Les crochets de l'araignée noire se plongèrent avec rage dans le thorax et le déchirèrent. Le petit corps se contorsionna, détendant ses longues pattes postérieures une seule fois. Déjà, les horribles crocs avaient arraché la tête et maintenant, ils fouillaient dans le ventre. Des morsures jaillirent le suc abdominal que l'assassin se mit à lécher avidement. Tout à la volupté démoniaque de son repas, il n'aperçut pas à temps une gigantesque silhouette sombre qui s'approchait de lui par derrière. Serrant encore sa victime entre ses pattes, l'araignée noire disparut à jamais entre les mâchoires du crapaud. Mais tout dans le jardin était poésie et calme divin. Une seringue empoisonnée s'enfonça dans la pulpe tendre d'un escargot qui s'acheminait vers le jardin potager. Il réussit à parcourir encore 2 centimètres avec la tête qui lui tournait, et puis il s'aperçut que son pied ne lui obéissait plus et il comprit qu'il était perdu. Bien que sa conscience fût obscurcie, Il sentit les mandibules de la larve assaillante qui déchiquetait furieusement des morceaux de sa chair, creusant d'atroces cavernes dans son beau corps gras et élastique dont il était si fier. Dans la dernière palpitation de son ignominieuse agonie, il eut encore le temps de remarquer avec une lueur de réconfort que la larve maudite avait été harponnée par une araignée loup et lacérée en un éclair. Un peu plus loin, Tandridil. Avec sa lanterne, allumée par intermittence au maximum, une luciole tournaillait autour de la lumière fixe d'une appétissante petite femelle languissamment étendue sur une feuille. Oui ou non? Oui ou non? Il s'approcha d'elle, tenta une caresse, elle se le laissa faire. L'orgasme de l'amour lui fit oublier à quel point un pré pouvait être infernal une nuit de lune. Au moment même où il embrassait sa compagne, un scarabée doré, d'un seul coup, l'éventra irrévocablement, le fendant de bout en bout. Son petit fanal continuait à palpiter, implorant, oui ou non, que son assaillant l'avait déjà à moitié englouti.